Balthazar Gracian, l'homme de cour. 121. Ne point faire une affaire de ce qui n'en est pas une. Comme il y a des gens qui ne s'embarrassent de rien, d'autres s'embarrassent de tout. Ils parlent toujours en ministre d'État. Ils prennent tout au pied de la lettre ou au mystérieux. Des choses qui donnent du chagrin, il y en a peu dont il faille faire cas. Autrement, on se tourmente bien en vain. C'est faire à contresens que de prendre à cœur ce qu'il faut jeter derrière le dos. Beaucoup de choses, qui étaient de quelque conséquence, n'ont rien été, parce que l'on ne s'en est pas mis en peine. Et d'autres qui n'étaient rien, sont devenues choses d'importance pour en avoir fait grand cas. Du commencement, il est aisé de venir à bout de tout. Après cela, non. Très souvent, le mal vient du remède même. Ce n'est donc pas la pire règle de la vie que de laisser aller les choses. 122. L'autorité dans les paroles et dans les actions. Cette qualité trouve place partout. D'abord, elle s'empare du respect. Elle se répand partout, dans la conversation, dans les harangues, dans le port, dans le regard, dans le vouloir. C'est une grande victoire que de prendre les cœurs. Cela ne vient pas d'une folle bravoure, ni d'un parler mystérieux, mais d'un certain ascendant, qui naît de la grandeur du génie, et est soutenu d'un grand mérite. 123. L'homme sans affectation. Plus il y a de perfection, et moins il y a d'affectation, car c'est d'ordinaire ce qui gâte les plus belles choses. L'affectation est aussi insupportable aux autres qu'elle est pénible à celui qui s'en sert, d'autant qu'il vit dans un continuel martyre de contraintes, pour se montrer ponctuel en tout. Les plus éminentes qualités perdent leur prix si l'on y découvre de l'affectation, parce qu'on les attribue plutôt à une contrainte artificieuse qu'au vrai caractère de la personne. Joint que tout ce qui est naturel a toujours été plus agréable que ce qui est artificiel. On passe pour étranger en tout ce que l'on affecte. Mieux on fait une chose, et plus il faut cacher le soin que l'on apporte à l'affaire, afin que chacun croit que tout y est naturel. Mais, en fuyant l'affectation, prends bien garde d'y tomber en affectant de ne pas affecter. L'homme adroit ne doit jamais montrer qu'il est persuadé de son mérite. Moins il paraîtra se soucier de le faire connaître, plus il excitera la curiosité des autres. Celui-là est deux fois excellent, qui renferme toutes les perfections en soi, sans en vanter aucune. Il arrive au terme de la plausibilité par un chemin peu fréquenté. 124. Se faire regretter. Peu de gens ont ce bonheur, et c'en est un tout extraordinaire de l'être des gens du bien. D'ordinaire, l'on a de l'indifférence pour ceux qui achèvent leur temps. Il y a divers moyens de mériter l'honneur d'être regretté. L'éminence des qualités reconnues dans l'exercice de l'emploi en est un, bien sûr. De contenter tout le monde en est un efficace. L'éminence fait naître la dépendance dès qu'on connaît que l'emploi avait besoin de l'homme qui l'exerce, et non l'homme de l'emploi. Quelques-uns honorent leur charge, et d'autres en sont honorés. Ce n'est pas un avantage que de paraître bon à cause que l'on a un mauvais successeur, car ce n'est pas là être vraiment regretté, mais seulement être moins haï. 125. N'être point livre de compte. C'est une marque de mauvaise réputation que de prendre plaisir à flétrir celle d'autrui. Quelques-uns voudraient laver ou du moins cacher leurs tâches en faisant remarquer celles des autres. Ils se consolent de leurs défauts sur ce que les autres en ont aussi, qui est la consolation des fous. Ces gens-là ont toujours la bouche puante, leur bouche étant l'égout des immondices civiles. Plus on creuse en ces matières et plus l'on s'embourbe. Il n'y a guère de gens qui n'aient un défaut originel, soit à droite ou à gauche. Les fautes ne sont pas connues en ceux qui sont peu connus. Que l'homme prudent se garde bien d'être le registre des médisances. C'est là s'ériger en modèle très désagréable et être sans âme, bien que l'on soit en vie. 126. Ce n'est pas être fou que de faire une folie, mais bien de ne la savoir pas cacher. Si l'on doit cacher ses passions, l'on doit encore plus cacher ses défauts. Tous les hommes manquent, mais avec cette différence que les gens d'esprit pallient les fautes faites et que les fous montrent celles qu'ils vont faire. La réputation consiste dans la manière de faire plutôt que dans ce qui se fait. Si tu n'es pas chaste, dit le proverbe, fais semblant de l'être. Les fautes des grands hommes sont d'autant plus remarquables que ce sont des éclipses de grande lumière. Quelque grande que soit l'amitié, ne lui fais jamais confidence de tes défauts. Cache-les même à toi-même si cela se peut. Du moins, on pourra se servir de cette autre règle de vie qui est de savoir oublier. 127. Le je ne sais quoi. C'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature. Le je ne sais quoi est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner. Il tient beaucoup plus du privilège que de l'étude, car il est même au-dessus de toute discipline. Il ne s'en tient pas à la facilité. Il passe jusqu'à la plus fine galanterie. Il suppose un esprit libre et dégagé, et à ce dégagement, il ajoute le dernier trait de la perfection. Sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Il l'emporte sur la valeur, sur la discrétion, sur la prudence, sur la majesté même. C'est une route politique par où l'on expédie bientôt les affaires. Et enfin, l'art de se retirer galamment de tout embarras. 128. Le haut courage. C'est une des principales conditions requises à un héros, d'autant qu'un tel courage l'aiguillonne à tout ce qu'il y a de grand, lui raffine le goût, lui enfle le cœur, relève ses pensées et ses manières et le dispose à la majesté. Partout où il se trouve, il se fait passage. Et lorsque l'iniquité du sort s'opiniâtre contre lui, il tente tout pour en sortir à son honneur. Plus il est resserré dans les bornes de la possibilité, et plus il veut se mettre au large. La magnanimité, la générosité et toutes les qualités héroïques le reconnaissent pour leur source. 129. Ne se plaindre jamais. Les plaintes ruinent toujours le crédit. Elles excitent plutôt la passion à nous offenser que la compassion à nous consoler. Elles ouvrent le passage à ceux qui les écoutent pour nous faire la même chose que ceux de qui nous nous plaignons. Et la connaissance de l'injure faite par le premier sert d'excuse au second. Quelques-uns, en se plaignant des offenses passées, donnent lieu à celles de l'avenir, et au lieu du remède et de la consolation qu'ils prétendent, ils donnent du plaisir aux autres et s'attirent même leur mépris. C'est bien une meilleure politique de publier les obligations que l'on a aux gens afin d'exciter les autres à nous obliger aussi. Parler souvent des grâces reçues des personnes absentes, c'est rechercher celles de ceux qui sont présents. C'est vendre le crédit des uns aux autres. Ainsi, l'homme prudent ne doit jamais publier ni les disgrâces ni les défauts mais bien les faveurs et les honneurs, ce qui sert à conserver l'estime des amis et à contenir les ennemis dans leurs devoirs. 130. Faire et faire paraître. Les choses ne passent point pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent être. Savoir faire et le savoir montrer, c'est double savoir. Ce qui ne se voit point est comme s'il n'était point. La raison même perd son autorité lorsqu'elle ne paraît pas telle. Il y a bien plus de gens trompés que d'habiles gens. La tromperie l'emporte hautement, d'autant que les choses ne sont regardées que par le dehors. Bien des choses paraissent tout autres qu'elles ne sont. Le bon extérieur est la meilleure recommandation de la perfection intérieure. 131. Le procédé du galant homme. Les âmes ont leur galanterie et leur gentillesse, d'où se forme le grand cœur. Cette perfection ne se rencontre pas en toutes sortes de personnes parce qu'elle suppose un fond de générosité. Son premier soin est de parler bien de ses ennemis et de les servir encore mieux. C'est dans les occasions de se venger qu'il paraît avec plus d'éclat. Il ne néglige pas ces occasions, mais c'est pour en faire un bon usage, en préférant la gloire de pardonner au plaisir d'une vengeance victorieuse. Ce procédé est même politique, attendu que la plus fine raison d'État n'affecte jamais ses avantages parce qu'elle n'affecte rien, et quand le bon droit les remporte, la modestie les dissimule. 132. S'aviser et se raviser. En appeler à la révision, c'est la voie la plus sûre, surtout quand l'avantage est certain. Soit pour octroyer ou pour mieux délibérer, il est toujours bon de prendre du temps. Il vient de nouvelles pensées qui confirment et fortifient la résolution. S'il est question de donner, le don est plus estimé à cause du discernement de celui qui le fait que pour le plaisir de ne l'avoir pas attendu. Ce qui a été désiré a toujours été plus estimé. Si c'est une chose à refuser, le temps en facilite la manière en laissant mûrir le nom jusqu'à ce que la saison soit venue. Joint que le plus souvent, dès que la première chaleur du désir est passée, l'on reçoit indifféremment la rigueur du refus. Ceux qui demandent à la hâte doivent être écoutés à loisir. C'est le vrai moyen d'éviter la surprise. 133. Être plutôt fou avec tous que sage tout seul. Car si tous le sont, il n'y a rien à perdre, disent les politiques. Au lieu que si la sagesse est toute seule, elle passera pour folie. Il faut donc suivre l'usage. Quelquefois, le plus grand savoir est de ne rien savoir, ou du moins d'en faire semblant. L'on a besoin de vivre avec les autres, et les ignorants font le grand nombre. Pour vivre seul, il faut tenir beaucoup de la nature de Dieu, ou être tout à fait de celle des bêtes. Mais pour modifier l'aphorisme, je dirais « plutôt sage avec les autres que fou sans compagnon ». Quelques-uns affectent d'être singuliers en chimère. 134. Avoir le double des choses nécessaires à la vie. C'est vivre doublement. Il ne faut pas se restreindre à une seule chose, bien même qu'elle soit excellente. Tout doit être au double, et surtout ce qui est utile et délectable. La lune, toute changeante qu'elle est, l'est encore moins que la volonté humaine, tant cette volonté est fragile. C'est pourquoi il faut mettre une barrière à son inconstance. Tenez donc pour règle principale de l'art de vivre, d'avoir au double tout ce qui sert à la commodité. Comme la nature nous a donné le double des membres les plus nécessaires et les plus exposés au danger, l'art doit pareillement d'oublier les choses dont dépend le bonheur de la vie. 135. N'être point d'esprit de contradiction, car c'est se rendre ridicule et même insupportable. La sagesse ne manquera jamais de conjurer contre cet esprit. C'est être ingénieux que de trouver des difficultés à tout, mais c'est donner dans la folie que d'être opiniâtre. Ces gens-là tournent la plus douce conversation en petite guerre, et sont par conséquent plus ennemis de leurs amis que de ceux qui ne les fréquentent point. Plus une bouchée de poisson est savoureuse, et plus on sent la rette qui entre dans les dents. La contradiction fait le même effet dans les doux entretiens. Ce sont des fous et des fantasques, qui ne sont pas seulement bêtes, mais encore bêtes sauvages. 136. Prendre bien les affaires et leur tâter incontinent le pouls. Plusieurs font un circuit ennuyeux de paroles sans jamais venir au nœud de l'affaire. Ils font mille tours et détours qui les lassent et lassent les autres sans arriver jamais au centre de l'importance. Et cela vient de la confusion de leur entendement qui ne saurait se débrouiller. Ils perdent leur temps et leur patience à ce qu'il fallait laisser. Et puis, il ne leur en reste plus à donner à ce qu'ils ont laissé. 137. Il ne faut au sage que lui-même. Un sage de Grèce se tenait lui-même lieu de toute chose, et tout ce qu'il avait était toujours avec lui. S'il est vrai qu'un ami universel suffit pour rendre aussi content que si l'on possédait Rome et tout le reste de l'univers, deviens ami de toi-même, et tu pourras vivre tout seul. Que te pourra-t-il manquer si tu n'as point de plus bel entretien, ni de plus grand plaisir qu'avec toi-même? Tu ne dépendras que de toi seul, et par là, tu ressembleras au souverain être. Celui qui peut bien vivre tout seul ne tient rien de la bête, mais beaucoup du sage, et tout de Dieu. 138. L'art de laisser aller les choses comme elles peuvent, surtout quand la mer est orageuse. Il y a des tempêtes et des ouragans dans la vie humaine. C'est prudence de se retirer au port pour les laisser passer. Très souvent, les remèdes font empirer les maux. Quand la mer des humeurs est agitée, laissez faire à la nature. Si c'est la mer des mœurs, laissez faire à la morale. Il faut autant d'habileté au médecin pour ne pas ordonner que pour ordonner. Et quelquefois, la finesse de l'art consiste davantage à ne point appliquer de remède. Ce sera donc le moyen de calmer les bourrasques populaires que de se tenir en repos. Céder alors au temps fera vaincre ensuite. Une fontaine devient trouble pour peu qu'on la remue, et son eau ne redevient claire qu'en cessant d'y toucher. Il n'y a point de remède à certains désordres que de les laisser passer, car, à la fin, ils s'arrêtent eux-mêmes. 139. Connaître les jours malheureux. Car il y en a où rien ne réussira. Tu auras beau changer de jeu, tu ne changeras point de sort. C'est au second coup qu'il faut prendre garde si l'on a le sort favorable ou contraire. L'entendement même à ces jours, car il ne s'est encore vu personne qui fût habile à toute heure. Il y va de bonheur à raisonner juste, comme à bien écrire une lettre. Toutes les perfections ont leur saison, et la beauté n'est pas toujours de quartier. La discrétion se dément quelquefois, tantôt en cédant, tantôt en excédant. Enfin, pour bien réussir, il faut être de jour. Comme tout réussit mal aux uns, tout réussit bien aux autres, et même avec moins de peine et de soin. et il y a tel qui trouve d'abord toute son affaire faite. L'esprit a ses jours, le génie son caractère, et toute chose leur étoile. Quand on est de jour, il n'en faut pas perdre un moment. Mais l'homme prudent ne doit pas prononcer définitivement qu'un jour est heureux à cause d'un bon succès, ni qu'il est malheureux à cause d'un mauvais. L'un n'étant peut-être qu'un effet du hasard, et l'autre du contretemps. 140. Donnez d'abord dans le bon de chaque chose. C'est la meilleure marque du bon goût. L'abeille va incontinent à la douceur pour avoir de quoi faire du miel, et la vipère à l'amertume pour amasser du venin. Il en est ainsi des goûts. Les uns s'attachent au meilleur et les autres au pire. À tout, il y a quelque chose de bon, surtout dans un livre qui d'ordinaire se fait avec étude. Quelques-uns ont l'esprit si mal tourné qu'entre 1000 perfections, ils s'arrêteront au seul défaut qu'il y aura, et ne parleront d'autre chose, comme s'ils n'étaient que pour servir de réceptacle aux immondices de la volonté et de l'esprit d'autrui, et pour tenir registre de tous les défauts qu'ils voient. Ce qui est plutôt la punition de leur mauvais discernement que l'exercice de leur subtilité. Ils passent mal la vie parce qu'ils ne se nourrissent que de méchantes choses. Plus heureux sont ceux qui, entre 1000 défauts, découvrent d'abord une perfection qui s'y trouve par hasard. 141. Ne se point écouter. Il sert de peu d'être content de soi-même si l'on ne contente pas les autres. D'ordinaire, l'estime de soi-même est punie par un mépris universel. Celui qui se paye de lui-même reste débiteur de tous les autres. Il s'y est mal de vouloir parler pour s'écouter. Si c'est une folie de se parler à soi-même, c'en est une double de s'écouter devant les autres. C'est un défaut des grands de parler d'un ton impérieux, et c'est ce qui assomme ceux qui les écoutent. À chaque mot qu'ils disent, leurs oreilles mendient un applaudissement ou une flatterie, jusqu'à l'importunité. Les présomptueux aussi parlent par écho. Et comme la conversation roule sur des patins d'orgueil, chaque parole est escortée de cette impertinente exclamation. Que cela est bien dit. Ah, le beau mot. 142. Ne prendre jamais le mauvais parti en dépit de son adversaire qui a pris le meilleur. Celui qui le fait est à demi vaincu, et à la fin il sera contraint de céder tout à fait. L'on ne se vengera jamais bien par cette voie. Si ton adversaire a eu l'adresse de prendre le meilleur, garde-toi bien de faire la folie de le contrepointer en prenant le pire. L'obstination des actions engage d'autant plus que celle des paroles qu'il y a bien plus de risques à faire qu'à dire. C'est la coutume des opiniâtres de ne regarder ni à la vérité pour contredire, ni à l'utilité pour disputer. Le sage est toujours du côté de la raison et ne donne jamais dans la passion. Ou il prévient, ou il revient. De sorte que si son rival est fou, sa folie le fait changer de route et passer à l'autre extrémité, par où la condition de l'adversaire empire. C'est donc l'unique moyen de lui faire abandonner le bon parti que de s'y ranger. D'autant que cela lui servira de motif pour embrasser le mauvais. 143. Se garder de donner dans le paradoxe en voulant s'éloigner du vulgaire. Les deux extrémités décréditent également. Tout projet qui dément la gravité est une espèce de folie. Le paradoxe est une certaine tromperie plausible qui surprend d'abord par sa nouveauté et par sa pointe. mais qui ensuite perd sa vogue dès qu'on vient à connaître sa fausseté dans la pratique. C'est une espèce de charlatanerie qui, en fait de politique, est la ruine des États. Ceux qui ne sauraient parvenir à l'héroïsme ou qui n'ont pas le courage d'y aller par le chemin de la vertu se jettent dans le paradoxe, ce qui les fait admirer des sots, mais sert à faire connaître la prudence des autres. Le paradoxe est une preuve d'un esprit peu tempéré et par conséquent très opposé à la prudence. Et si quelquefois il ne se fonde pas sur le faux, du moins est-il fondé sur l'incertain, au grand désavantage des affaires. 144. Entrer sous le voile de l'intérêt d'autrui pour rencontrer après le sien. C'est un stratagème très propre à faire obtenir ce que l'on prétend. Les directeurs même enseignent cette sainte ruse pour ce qui concerne le salut. C'est une dissimulation très importante, attendu que l'utilité qu'on se figure sert d'amorce pour attirer la volonté. Il semble à autrui que son intérêt va le premier, et ce n'est que pour ouvrir le chemin à la prétention. Il ne faut jamais entrer à l'étourdi, mais surtout où il y a du danger au fond. Et lorsqu'on a affaire à ces gens, dont le premier mot est toujours non, il ne leur faut pas montrer où l'on vise, de peur qu'ils ne voient les raisons de ne pas accorder, et principalement quand on pressent qu'ils y ont de la répugnance. Cet avis est pour ceux qui savent faire de leur esprit tout ce qu'ils veulent, qui est la quintessence de la subtilité. 145. Ne point montrer le doigt malade, car chacun y viendra frapper. Garde-toi aussi de t'en plaindre, d'autant que la malice attaque toujours par l'endroit le plus faible. Le ressentiment ne sert qu'à la divertir. Elle ne cherche qu'à jeter hors des gonds. Elle coule des mots piquants et met tout en œuvre jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le vif. L'homme adroit ne doit donc jamais découvrir son mal, soit personnel ou héréditaire, attendu que la fortune même se plaît quelquefois à blesser à l'endroit où elle sait que la douleur sera plus aiguë. Elle mortifie toujours au vif, et par conséquent, il ne faut laisser connaître ni ce qui mortifie ni ce qui vivifie, pour faire finir l'un et faire durer l'autre. 146. Regardez au-dedans. D'ordinaire, il se trouve que les choses sont bien autres qu'elles ne paraissent, et l'ignorance, qui n'avait regardé qu'à l'écorce, se détrompe dès qu'elle va au-dedans. Le mensonge est toujours le premier en tout. Il entraîne les sots par un long dit vulgaire qui va de bouche en bouche. La vérité arrive toujours la dernière et fort tard, parce qu'elle a pour guide un boiteux qui est le temps. Les sages lui gardent toujours l'autre moitié de cette faculté que la nature a tout exprès donnée double. La tromperie est toute superficielle, et ceux qui le sont eux-mêmes y donnent un continent. Le discernement est retiré au-dedans pour se faire estimer davantage par les sages. 147. N'être point inaccessible. Quelque parfait que l'on soit, on a quelquefois besoin de conseils. Celui-là est fou incurable qui n'écoute point. L'homme le plus intelligent doit faire place aux bons avis. La souveraineté même ne doit pas exclure la docilité. Il y a des hommes incurables à cause qu'ils sont inaccessibles. Ils se précipitent parce que personne n'ose approcher d'eux pour les en empêcher. Il faut donc laisser une porte ouverte à l'amitié, et ce sera celle par où viendra le secours. Un ami doit avoir pleine liberté de parler et même de réprimander. L'opinion conçue de sa fidélité et de sa prudence lui doit donner cette autorité. Mais aussi, il ne faut pas que cette familiarité soit commune à tous. Il suffit d'avoir un confident secret, dont on estime la correction, et de qui l'on se serve comme d'un miroir fidèle pour se détromper. 148. Savoir l'art de converser. C'est par où l'homme montre ce qu'il vaut. Dans toutes les actions de l'homme, rien ne demande plus de circonspection, attendu que c'est le plus ordinaire exercice de la vie. Il y va de gagner ou de perdre beaucoup de réputation. S'il faut du jugement pour écrire une lettre qui est une conversation par écrit et méditée, il en faut bien davantage dans la conversation ordinaire, où il se fait un examen subit du mérite des gens. Les maîtres de l'art tâtent le pouls de l'esprit par la langue, conformément au dire du sage « Parle, si tu veux que je te connaisse ». Quelques-uns tiennent que le véritable art de converser est de le faire sans art, et que la conversation doit être aisée, comme le vêtement, si c'est entre bons amis. Car, lorsque c'en est une de cérémonie et de respect, il y doit entrer plus de retenue pour montrer que l'on a beaucoup de savoir-vivre. Le moyen d'y bien réussir est de s'accommoder au caractère d'esprit de ceux qui sont comme les arbitres de l'entretien. Garde-toi de t'ériger en censeur des paroles, ce qui te ferait passer pour un grammairien, ni en contrôleur des raisons, car chacun te fuirait. Parler à propos est plus nécessaire que parler éloquemment. 149. Savoir détourner les mots sur autrui. C'est une chose de grand usage parmi ceux qui gouvernent que d'avoir des boucliers contre la haine, c'est-à-dire des gens sur qui la censure et les plaintes communes aillent fondre. Et cela ne vient point d'incapacité, comme la malice se le figure, mais d'une industrie supérieure à l'intelligence du peuple. Tout ne doit pas réussir, ni tout le monde être content. Il doit y avoir une tête forte qui serve de but à tous les coups, et qui porte les reproches de toutes les fautes et de tous les malheurs aux dépens de sa propre ambition. 150. Savoir faire valoir ce que l'on fait. Ce n'est pas assez que les choses soient bonnes en elles-mêmes, parce que tout le monde ne voit pas au fond, ni ne sait pas goûter. La plupart des hommes vont à cause qu'ils voient aller les autres, et ne s'arrêtent qu'au lieu où il y a grand concours. C'est un grand point que de savoir faire estimer sa drogue, soit en la louant, car la louange est l'aiguillon du désir, soit en lui donnant un beau nom, qui est un beau moyen d'exalter. Mais il faut que tout cela se fasse sans affectation. N'écrire que pour les habiles gens, c'est un hameçon général, parce que chacun le croit être. Et pour ceux qui ne le sont pas, la privation servira d'éperon au désir. Il ne faut jamais traiter ses projets de commun ni de facile, car c'est les faire passer pour triviaux. Tout le monde se plaît au singulier comme étant plus désirable et au goût et à l'esprit. 151. Pensez aujourd'hui pour demain et pour longtemps. La plus grande prévoyance est d'avoir des heures pour elle. Il n'y a point de cas fortuit pour ceux qui prévoient, ni de pas dangereux pour ceux qui s'y attendent. Il ne faut pas attendre qu'on se noie pour penser au danger. Il faut aller au-devant et prévenir par une mûre considération tout ce qui peut arriver de pis. L'oreiller est une sibylle muette. Dormir sur une chose à faire vaut mieux que d'être éveillé par une chose faite. Quelques-uns font et puis pensent, ce qui est plutôt chercher des excuses que des expédients. D'autres ne pensent ni devant ni après. Toute la vie doit être à penser pour ne se point égarer. La réflexion et la prévoyance donnent la commodité d'anticiper sur la vie. 152. Ne s'associer jamais avec personne auprès de qui l'on est moins de lustre. Ce qui excède en perfection, excède en estime. Le plus accompli aura toujours le premier rôle. Si son compagnon a quelque part à la louange, ce ne sera que son reste. La lune luit, tandis qu'elle est toute seule parmi les étoiles. Mais dès que le soleil commence à se montrer, ou elle n'éclaire plus, ou elle disparaît. Ne t'approche jamais de qui te peut éclipser, mais bien de qui te peut servir de lustre. C'est ainsi que cette adroite fabule-là de Martial trouva moyen de paraître belle par la laideur ou la vieillesse de ses compagnes. Il ne faut jamais risquer d'avoir à son côté des gens de plus de mérite que soi, ni faire honneur aux autres aux dépens de sa réputation. Il est bon de hanter les personnes éminentes pour ce faire, mais quand on est fait, il faut s'accoster de gens médiocres. Pour te faire, choisis les plus parfaits, et quand tu seras fait, fréquente les médiocres. 153. Fuir d'être obligé de remplir un grand vide. Si l'on s'y engage, il faut être bien assuré d'excéder, car il est besoin de valoir le double de son prédécesseur pour l'égaler. Comme il y a de la finesse à faire en sorte que celui qui succède soit tel qu'on soit regretté, il y va pareillement d'adresse à se garder d'être éclipsé par celui qui achève. Il est bien difficile de remplir un grand vide. Attendu que d'ordinaire le premier paraît meilleur, et par conséquent, l'égalité ne suffit pas, parce que le premier est en possession. Il est donc nécessaire de le surpasser, pour lui ôter l'avantage qu'il a d'être le plus estimé. 154. N'être facile ni à croire ni à aimer. La maturité du jugement se connaît à la difficulté de croire. Il est très ordinaire de mentir. Il doit donc être extraordinaire de croire. Celui qui est facile à remuer se trouve souvent décontenancé. Mais il faut bien se garder de montrer du doute de la bonne foi d'autrui, car cela passe de l'incivilité à l'offense, attendu que c'est le traité de trompeur ou de trompé. Encore, n'est-ce pas là le plus grand mal? Car, outre cela, ne point croire est un indice de mentir, le menteur étant sujet à deux mots, à ne point croire et à n'être point cru. La suspension du jugement est louable en celui qui écoute, mais celui qui parle peut s'en rapporter à son auteur. C'est aussi une espèce d'imprudence d'être facile à aimer, car si l'on ment en parlant, l'on ment bien aussi en faisant. Et cette tromperie est encore plus pernicieuse que l'autre. 155. L'art de se contenir. Qu'une prudente réflexion prévienne, s'il est possible, les saillies ordinaires ou vulgaires. Cela ne sera pas difficile à l'homme prudent. Le premier pas de la modération est de s'apercevoir que l'on se passionne. C'est par là qu'on entre en lice avec plein pouvoir sur soi, et que l'on sonde jusqu'où il est nécessaire de laisser aller son ressentiment. C'est avec cette réflexion dominante qu'il faut entrer en colère, et puis y mettre fin. Tâche de savoir où et quand il faut arrêter. car le plus difficile de la course est de s'arrêter tout court. Grande marque de jugement, de rester ferme et sans trouble au milieu des saillies de la passion. Tout excès de passion dégénère du raisonnable. Mais avec cette magistrale précaution, la raison ne se brouillera jamais ni ne passera point les bornes du devoir. Pour savoir gourmander une passion, il faut toujours aller bride en main. Celui qui se gouvernera de la sorte passera pour le plus sage cavalier ou pour le plus étourdi s'il fait autrement. 156. Les amis par élection. Les amis doivent être à l'examen du discernement et à l'épreuve de la fortune. Ce n'est pas assez qu'ils aient le suffrage de la volonté, s'ils n'ont aussi celui de l'entendement. Quoi que ce soit là le point le plus important de la vie, c'est celui où l'on apporte le moins de soin. Quelques-uns font leurs amis par l'entremise d'autrui, et la plupart par hasard. On juge d'un homme par les amis qu'il a. Un habile homme n'en a jamais voulu d'ignorant. Mais bien qu'un homme plaise, ce n'est pas à dire que ce soit un ami intime, car cela peut venir plutôt de ses belles manières d'agir que d'aucune assurance que l'on ait de sa capacité. Il y a des amitiés légitimes et des amitiés bâtardes. Celles-ci sont pour le plaisir, mais les autres pour agir plus sûrement. Il se trouve peu d'amis de la personne, mais beaucoup de la fortune. Le bon esprit d'un ami est plus utile que toute la bonne volonté des autres. Prends donc des amis par choix et non par sort. Un ami prudent épargne bien des chagrins, au lieu qu'un autre qui n'est pas tel les multiplie et les entasse. Si tu ne veux point perdre d'amis, ne leur souhaite point une grande fortune. 157. Ne se point tromper en gens. C'est la pire et la plus ordinaire des tromperies. Il vaut mieux être trompé au prix qu'à la marchandise. Il n'y a rien où il faille plus regarder par-dedans. Il y a bien de la différence entre entendre les choses et connaître les personnes. Et c'est une fine philosophie que de discerner les esprits et les humeurs des hommes. Il est aussi nécessaire de les étudier que d'étudier les livres. 158. Savoir user de ses amis. Il y va de grande adresse. Les uns sont bons pour s'en servir de loin, et les autres pour les avoir auprès de soi. Tel qui n'a pas été bon pour la conversation l'est pour la correspondance. L'éloignement efface certains défauts que la présence rendait insupportables. Dans les amis, il n'y faut pas chercher seulement le plaisir, mais encore l'utilité. L'ami doit avoir trois qualités du bien ou, comme disent les autres, de l'être. L'unité, la bonté, la vérité. D'autant que l'ami tient lieu de toutes les choses. Il y en a très peu qui puissent être donnés pour bons, et de ne les savoir pas choisir, le nombre en devient encore plus petit. Les savoir conserver est plus que de les avoir su faire. Cherche-les tels qu'ils durent longtemps, et bien que du commencement ils soient nouveaux, c'est assez pour être content qu'ils puissent devenir anciens. À le bien prendre, les meilleurs sont ceux que l'on acquiert qu'après avoir longtemps mangé du sel avec eux. Il n'y a point de désert si affreux que de vivre sans amis. L'amitié multiplie les biens et partage les maux. C'est l'unique remède contre la mauvaise fortune, le soupirail par où l'âme se décharge. 159. Savoir souffrir les sots. les sages, ont toujours été mal endurants. L'impatience croît avec la science. Une grande connaissance est difficile à contenter. Au sentiment d'Épictète, la meilleure maxime de la vie, c'est de souffrir. Il a mis là la moitié de la sagesse. S'il faut tolérer toutes les sottises, il faut sans doute une extrême patience. Quelquefois, nous souffrons plus de ceux de qui nous dépendons davantage, et cela sert d'exercice à se vaincre. C'est de la souffrance que naît cette inestimable paix qui fait la félicité de la terre. Que celui qui ne se trouvera pas en humeur de souffrir en appelle à la retraite de soi-même, si tant est qu'il puisse bien se supporter lui-même. 160. Parler sobrement à ses émules par précaution, et aux autres par bienséance. On est toujours à temps pour lâcher la parole, mais non pour la retenir. Il faut parler comme l'on fait dans un testament, attendu qu'à moins de paroles, moins de procès. Il s'y faut accoutumer dans ce qui n'importe point, pour n'y point manquer quand il importera. Le silence tient beaucoup de la divinité. Quiconque est prompt à parler est toujours sur le point d'être vaincu et convaincu.